Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
En 2001, dans Œuvres croisées, Pascal Lismonde recevait Christine Bussig-Luxman pour son livre « L'esthétique du temps au Japon, du zen au virtuel ». Un ouvrage que la philosophe présentait ainsi. De Kyoto à Fukuoka, à travers cette mégalopole fascinante qu'est Tokyo, ce livre est un voyage entre Asie et Europe où se dessinent les passages japonais pour l'an 2001. Voyage dans les lieux, des temples immémoriaux aux architectures les plus contemporaines d'Arata Isozaki, Tokyo Ito ou Itsuko Asegawa, mais aussi voyage dans le temps, du zen au virtuel. Ce temps devenir et éphémère, libéré de tout monothéisme, donne naissance, dans les manières et les matrices propres aux pratiques artistiques, architecturales et urbaines, à une esthétique des légèretés, des transparences et des indifférences.
Œuvres croisées, Christine Bussig-Luxman et le Japon, par Pascal Lismonde et Perrine Mingui. En 1998, la philosophe Christine Bussig-Luxman part en séjour de 4 mois à la villa Kujoyama de Kyoto. Les Japonais ont traduit ses travaux sur le baroque, depuis la raison baroque, qui date de 1984, jusqu'à la folie du voir, l'enjeu du beau, ou plus récemment, l'œil cartographique de l'art, pour ne citer que cela. Ce premier séjour à Kyoto sera suivi de plusieurs autres, de Tokyo à Okinawa. Des voyages qui sont aussi la découverte et la mise à jour d'une nouvelle esthétique, ou plutôt d'un nouvel être, pour une existence nouvelle. Christine Bussig-Luxman, nous sommes ici venus chez vous pour faire l'enregistrement de cette émission. Et je dois dire que dès que l'on rentre dans votre intérieur, on sent que la marque d'un pays qui vous est cher désormais, le Japon, est devenue très présente. Vous venez de publier ce livre, donc à la suite de ce voyage au Japon, de ces voyages au Japon, l'esthétique du temps au Japon. Et c'est un parcours que vous nous proposez, donc un parcours esthétique, mais en même temps un parcours qui est vraiment une méditation de vie, de votre vie là-bas. Vous commencez d'ailleurs cet ouvrage en disant « Ce livre est né d'un voyage ». Pourquoi le voyage au Japon ?
C'est un long voyage. C'est des années d'imprégnation et je dirais de passion pour la culture et l'art japonais. Et au fond, ce Japon où j'ai séjourné 4 mois à Kyoto, à la villa Kujoyama, où j'ai enseigné à l'université de Tokyo, Ce Japon, j'étais dans une sorte de distance juste. Il m'était à la fois proche et lointain. Et cette distance juste, c'est ce que j'ai appelé un entre-deux des cultures, et en japonais, ce qui est le ma, c'est-à-dire un espace, un intervalle, un espacement, et du vide. Et donc, ce voyage a été pour moi à la fois un voyage dans le voyage, puisque le voyage est un genre japonais par excellence, qu'il y a à la fois la mélancolie du voyage, le voyage à travers les estampes, mais aussi le voyage, la pérégrination des moines par exemple. Et donc ce voyage a été un voyage en fait à travers le temps. C'est un livre du temps, et ce temps du Japon au fond m'a conduite du zen au virtuel à travers cette ville merveilleuse, cette ville amibe, cette ville labyrinthe qu'est Tokyo.
Zen au virtuel, c'est d'ailleurs le sous-titre que vous donnez à votre livre, donc sur cette esthétique du temps. Mais vous parlez du temps, je pense que c'est aussi un voyage au sens strict du terme dans l'espace, parce que le Japon, c'est aussi ce lointain, cet ailleurs absolu par rapport à notre culture occidentale, et c'est vraiment un élément qui est tellement autre, vous dites. D'ailleurs, cet élément, dès la deuxième phrase de votre livre, donc vous êtes habité par un autre lointain. Donc il y a vraiment un choc viscéral, pas seulement intellectuel, dans la découverte de ce Japon-là.
Oui, je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui expliquent ce choc. D'abord, je n'avais jamais vécu longtemps, enseigné, dans un pays hors du monothéisme. Le Japon n'est pas une société structurée par la loi et par l'un monothéisme. C'est une société qui est structurée dans des normes, normes sociales, qui se donnent dans des formes, qui sont des formes de langue mais des formes de vie, et aussi dans des manières qui sont au fond cette sorte d'esthétisation permanente du détail, du quotidien, de la vie, comme de l'architecture et de l'art.
La loi existe, mais elle est plutôt humaine que divine, même si elle a force peut-être,
disons,
si elle a caractère divin d'une certaine manière.
Disons que c'est un sacré d'immanence qui est fait de rituels, et cela est vrai du shintoïsme comme du bouddhisme. Et donc cet aspect rituel de la société fait qu'au fond, on ne peut pas briser ce mélange de présence et d'absence ou ce mélange de visible et d'invisible, quelque chose comme un secret que je n'ai pas cherché à briser. Et à ce moment-là, on vit dans ce sacré d'immanence ritualisée ou cette esthétisation permanente du quotidien, et on s'aperçoit qu'elle n'est possible que par ce que j'ai appelé justement une esthétique du temps. Et le temps m'a transformée. Alors, j'ai repris le zen, Dogen. Au fond, tout est temps. Tout est temps, c'est-à-dire le rat, l'araignée, le tigre, l'humain, en dehors des partages, disons, de l'humain et de l'animal et de l'inorganique de l'Occident. Autrement dit, c'est un temps existence. Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que ce n'est pas un temps mémoire au sens occidental, mais au contraire un temps devenir où les catégories essentielles sont l'éphémère, l'impermanence, le cycle et le retour des choses. Et donc, on vit en même temps, je dirais, deux temps contradictoires, complètement conflictuels, un temps urbain ou un temps ultra-capitaliste accéléré, si l'on parle, je pense, à Tokyo, mais en même temps un temps lent, un temps dilaté, et je crois que c'est ce temps existence qui m'a transformée.
Méditation sur le temps, à la japonaise, Uja Hidetaro interprète ce chant ancien, Yoru no Ame, ou chant d'une nuit de pluie. Une nuit où une courtisane attend son amant, sans savoir s'il viendra. Thank you. Dans l'un des chapitres que vous consacrez à ces réflexions, que vous avez baptisé concept, vous citez en exergue deux phrases qui me semblent bon de dire, parce qu'elles résument très bien justement ce que vous étiez en train de dire, Christine Bussy-Glucksmann. C'est l'une, et quel était votre visage avant la naissance de vos parents, ce qui plonge dans un abîme de réflexion, et l'autre est effectivement une phrase d'Hogen, il n'y a pas une seule chose qui échappe au moment présent. Donc il y a en même temps cette sorte de totalité du monde, dans le monde, dans l'instant présent, un élément que effectivement nous n'avons pas du tout dans la pensée occidentale, qui est tout le temps entre le passé, le présent, l'avenir, dans une sorte de linéarité, et en même temps cette idée que on essaie d'imaginer autre chose que ce que l'on est, qu'il y a cette continuité de l'être.
Oui, j'avais été très bouleversée par le Buteau, c'est-à-dire Ono, et aussi un Buteau plus contemporain, parce que précisément, il s'agit de s'identifier en quelque sorte à ce qu'on est avant, au bébé intérieur, ou de s'identifier au visage de ses parents avant sa naissance. C'est-à-dire ça, c'est une temporalité qui, à nous échappe. C'est ce que j'ai appelé un temps dilaté, un temps élargi, et un temps élargi à l'avant et à l'après, à l'avant humain et au post-humain. Et on s'aperçoit alors au fond, comme le disait Ono, je crois qu'il disait que pour sourire, il faut en soi se faire un corps mort. Et il dansait comme une fleur. Et c'est une des figures aussi d'Ono et des textes de Zéami, le moment de la grâce, le
Zéami
moment...
Zéami étant ce poète, effectivement, dont on a repris énormément de textes pour le théâtre No.
Oui, qui a écrit des no, mais qui a écrit aussi un traité sur le no. Et alors là, on s'aperçoit justement que le moment du présent est ce qu'on appelle le temps, dans le japonais contemporain, toki, c'est de saisir le moment propice, la grâce du moment. Et ce moment de la danse, c'est ce que Zéami appelle la fleur du vide. Et je crois que le temps coïncide avec la fleur du vide et, je dirais, spécifique vraiment à l'art japonais.
Et alors, par rapport justement à ce temps, quand on vit au Japon, quel est l'élément qui rend le plus sensible cette autre perception du temps? Est-ce que ce principe-là, donc de totalité de l'instant dans l'instant présent, apparaît donc dans la vie quotidienne?
Je crois qu'il apparaît dans la vie quotidienne. Il y a des choses qui m'ont beaucoup émue. Quand je descendais la colline de Kyoto, je voyais des vieilles personnes vraiment très ridées et très belles. C'est-à-dire, il y a une beauté de la vieillesse. C'est comme si la différence des âges, ce qui est représenté en quelque sorte dans le théâtre, était aussi dans la vie. Et bien sûr, elles arrosaient leur minuscule jardin tous les jours et me saluaient deux fois. Ou encore, dans des actes quotidiens, à Tokyo, on est très fatigué, on dort dans le métro.
Surtout que les distances sont énormes.
Les distances sont énormes, 120 kilomètres d'une sorte de ville spirale, amibe, labyrinthe,
30 millions d'habitants.
Des millions d'habitants, 25 millions avec la zone urbaine. Et en même temps, on se réveille toujours au bon moment. Et au bout d'un certain temps, j'ai fait pareil. J'étais capable de dormir et de ne jamais rater ma station. Et donc, c'est une sorte de temps de croisement, si j'essayais de le caractériser, entre un temps fluide, un temps qui coule, le temps de l'éphémère, le temps de ce qu'on appelle en japonais, mujo, l'impermanence. L'impermanence du temps qui est beaucoup plus encore que l'éphémère. C'est cette sorte d'affect du temps qui peut être un temps lent. Hein, et le temps peut se ralentir. Et en même temps, bien évidemment, à Tokyo, on a un temps urbain accéléré. Si bien que de ce temps lent et ce temps accéléré, de ce temps immémorial et de ce temps architectural et virtuel, on a une sorte d'hybridation des temps, de constellation des temps dans un certain présentéisme de tout.
Camouflage, une musique de Yukiro Takahashi dans un arrangement de Marc Gamble. Glucksmann, vous êtes philosophe au départ, et vous savez que dans la philosophie grecque, enfin en particulier chez les présocratiques, cette notion d'impermanence existe déjà. Donc quel serait le mode oriental, le mode japonais qui diffère à l'extrême de ce qu'ont inventé déjà les présocratiques ?
C'est-à-dire que, effectivement, dans mon livre sur le concept de temps, j'ai tenté un croisement entre le rapport entre le temps et les manières, tel qu'on le trouve dans le stoïcisme, qui était aussi une philosophie de l'immanence et une philosophie du corps et de l'incorporel, et donc où tout est manière d'être et non chose substantielle, et la manière au sens du zen et de dogen, fusei, en japonais. Il est évident, si vous voulez, qu'on a perdu, je dirais, on a perdu le fond pré-platonicien, au fond. Et surtout, on vit beaucoup trop, à mon avis, dans un temps mémoire, un temps monumental, et pas assez dans le temps du XXIe siècle, je crois, c'est-à-dire dans ce que j'ai appelé un temps flux, une culture des flux et des fluidités. Et là, le temps, au Japon, dans ce croisement avec l'Occident, me paraît se réfléchir lui-même en esthétique du temps. Et c'est ça qui est très fort.
Il y a en particulier, ce que vous dites me fait penser à certains temples, ou tous les temples que l'on découvre à Kyoto notamment, qui est quand même une ville mémoire sur ce plan-là tout à fait exceptionnelle. Il y a dans les temples, quand on se promène dans les jardins, je pense au temple du Ryoanji qui est absolument extraordinaire, où il y a donc ces dessins que l'on fait sur le sol, que les jardiniers passent leur râteau pour dessiner des bandes, et ceci de façon, enfin, j'ai l'impression que ça se fait à l'infini. Mais il y a aussi toujours, pour marquer le temps, il y a cette goutte d'eau qui tombe à intervalles extrêmement réguliers et que l'on entend passer dans des tubes. Et à un certain moment, le tube rempli d'eau tombe de l'autre côté. Il y a une sorte de mouvement, on dirait presque un bruit de métronome, mais le métronome a toujours un côté, le métronome occidental a un côté très accéléré, en fait, enfin, peut-être très accéléré, alors que là, il y a en même temps la fluidité de l'eau qui passe dans le tube et qui, à un moment, tombe. Il y a, et ce bruit de la goutte qui tombe et du bois qui tombe en même temps est absolument extraordinaire, parce que c'est une façon de rythmer le temps.
Oui, c'est-à-dire que le rythme du temps est une sorte d'image sonore. Et bon, comme vous le dites à propos de ce temple, mais il y a même un temple dans la montagne de Kyoto entièrement en eau. C'est-à-dire que il y a à la fois de l'eau souterraine, de l'eau qui tombe goutte à goutte. C'est comme si on entendait la musique de l'eau, en quelque sorte. Et ces images sonores sont à la fois très fragiles, au fond. Ce sont des images d'éphémères et des images un peu cycliques. Et je crois que ce mouvement du temps, cet affect du temps, veut dire qu'au fond, on est toujours en soi et hors de soi. Et là, je crois que et dans les jardins, on est toujours dans un espace, au fond, inexpressif quelque part, un vidé. Et avec la symbolique des rochers, la contingence des rochers, il y a une retenue permanente qui suscite la méditation. Et je crois que l'image sonore, en dehors donc du fait que l'eau, au fond, fait partie d'un rituel bouddhiste et aussi shinto d'ailleurs, l'image sonore donne cette sorte d'éphémère de toute chose et de cycle de toute chose.
Dans un jardin d'automne, une pièce de Taru Takemitsu composée en 1973 pour instrument traditionnel à partir des rythmes gagaku, c'est-à-dire à partir de l'origine même de la musique japonaise.
Au niveau des temples et de l'immémorial, j'ai évidemment fait les grands sanctuaires, Nara, Ise, ceux de Kyoto et même ceux beaucoup moins nombreux de Tokyo. Et ce qui est frappant, comme vous le savez, on les reconstruit tous les 20 ans à l'identique, c'est au fond qu'on a là des espaces de méditation, c'est-à-dire toute une conception de l'image n'est pas, au fond, chrétienne, je dirais, qui n'est pas dans l'ordre de l'incorporation, mais qui est au contraire dans l'ordre d'instaurer un espacement, un intervalle, une distance, c'est-à-dire l'image est au fond une image intérieure. Et ce qui m'a beaucoup fascinée, bien évidemment, c'est qu'on sort de ces mondes où il y a à la fois le vide, bien connu de toute personne qui s'intéresse au Japon, et je tiens à le dire, à Kyoto, il y a deux temples extraordinaires où on s'aperçoit qu'il y a un art des multiplicités. Il y a une colline entière qui est consacrée aux Inari, que vous connaissez bien.
Les fameux renards blancs.
Les fameux renards qui, avec leur bavoir, il y en a des milliers. Bah, et toute
qui
la colline.
À la porte, il faut peut-être préciser que, parce que tout le monde ne les connaît pas, que ces renards blancs, donc, sont à la porte des temples et sont en quelque sorte les gardiens du temple.
Oui, ce sont les protecteurs parce qu'ils ont volé le riz et ils l'ont apporté aux Japonais. Ce sont des protecteurs. Et donc, on est dans une sorte de prolifération de multiplicité. Et là, on est donc quand même dans des rituels shinto. Et dès qu'on passe au temple des 1000 Bouddhas, il y a 1000 Bouddhas. C'est-à-dire, précisément, parce que le bouddhisme aussi implique une multiplicité de bras, de corps, et une armée entière de 1000 Bouddhas d'or, tous rangés en rang.
Extrait d'Eclipse pour biwa, flûte shakuhachi et orchestre, une célèbre pièce du Requiem du compositeur Toru Takemitsu, disparu en 1996.
Alors, quand on passe de là à la ville, bien sûr Kyoto, mais surtout Tokyo, alors on se trouve dans un tout autre monde. Je crois que ce qui caractérise Tokyo, c'est, comme je le dis, une ville virtuelle. 120 km urbains, entièrement en spirale et en labyrinthe, avec quelques grandes avenues, et tout le reste, avec des petites maisons, selon la vieille ville, en quelque sorte, ville labyrinthe, où on peut avoir son jardin. Moi, j'avais devant moi des jardins de gardenia, par exemple. Je crois que ce type de ville est une ville au fond rhizomatique, une ville deleuzienne en quelque sorte. Et là, j'avais juste écrit avant l'œil cartographique de l'art, au fond, Tokyo, c'est une cartographie à l'infini jusqu'à la mer. Et cette ville, de nuit, devient une autre ville, c'est-à-dire que là, elle s'enveloppe de lumière, elle s'enveloppe du temps. Il y a une sorte de temps électronique inscrit dans la ville, à l'infini également. Et pour moi, c'est vraiment la ville de la fluidité. Et au fond, Tokyo, pour moi, c'est les passages japonais pour l'an 2001.
Light in the Darkness, une musique de Sakamoto et Takahashi dans un arrangement de Mark Gamble. la ville de la fluidité et en même temps aussi cette ville justement des contrastes donc, que vous décriviez à l'instant. Et en fait, en vous écoutant, Christine Bussy-Glucksmann, on sent, et en lisant votre livre donc, sur l'esthétique du temps, on sent combien ce séjour au Japon vous a permis, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, mais vous a permis de donner corps, enfin de trouver un corps, un grand corps, donc qui serait cette grande île, à tout ce que vous avez travaillé depuis des années, donc depuis vos travaux sur l'esthétique baroque, depuis La Folie du Voir, qui était le premier. On a l'impression que là, maintenant, les choses sont incarnées et que vous y avez trouvé donc un croisement, une nouvelle dimension d'être.
Je pense que j'ai trouvé en moi-même effectivement une nouvelle dimension d'être, dans la mesure où, à la différence d'un baroque du corps, on est dans un maniérisme fluide, que j'ai même dit indifférent, c'est-à-dire dans un art de la retenue. Et ce qui m'a fascinée d'abord, et que j'ai construit au fond comme un traité d'esthétique, à travers des lieux, à travers des concepts et à travers des émotions, disons des affects. Ces trois dimensions accompagnent chaque chapitre, en somme, des divisions du livre. Et je ne prendrai que deux exemples. Ce qui m'a fascinée, c'est le redéploiement d'une même notion, c'est-à-dire le croisement du temps et des manières. La manière, bien sûr, se constitue dans la culture des Yan, la culture aristocratique, la culture du dit du Genji.
Et c'est là. Le Genji étant ce grand récit, donc, dû à une femme, au tout.
Qui invente la littérature, littéralement.
Au début du XIe siècle, au Japon.
Oui, Murasaki Shikibu, dont j'ai fait une photo, qu'on peut voir au début du livre. Et apparaît cette idée, à ce moment-là, d'un code érotique de la distance, du secret des corps et des visages, et apparaît, au fond, l'idée que une distance neutre ne détruit pas l'affect, mais au contraire, le multiplie. Et donc la manière est une sorte d'empathie avec l'éphémère dans cette culture des Yan où les corps étaient enveloppés en somme de tous les kimonos et en fonction de la hiérarchie sociale, cette notion de manière se constitue. Et ce qui m'a absolument passionnée, au fur et à mesure de mes découvertes, de mes lectures et d'un temps long de travail, c'est de voir que le concept de manière réapparaissait, par exemple, dans la culture d'Edo, la culture donc de Tokyo, avant Tokyo, par exemple dans les travestissements du kabuki, dans les estampes, dans tout le travail des estampes, et que là apparaissait une notion de quelqu'un qui est Kuki Shuzo, qui a été d'ailleurs un interlocuteur d'Heidegger, une notion tout à fait importante qui s'appelle l'iki. Alors l'iki, et je crois qu'on comprend le Japon quand on comprend quelque chose comme ça, c'est de faire du charme à quelqu'un, mais c'est bien évidemment de mélanger la séduction, le panache et le renoncement. C'est-à-dire, c'est tout cela en même temps. C'est-à-dire d'être capable de séduire en laissant la séduction en suspens, en disant au fond, je peux renoncer à ma séduction et c'est pourquoi j'en ai beaucoup plus. C'est-à-dire, c'est l'opposé de Don Juan. Hein, le temps de Don Juan est un temps du cumul.
Millettrés.
Alors, il y a à Edo des livres où il y a beaucoup plus que je raconte. Il y a toute une érotique du multiple où il y a beaucoup plus que millettrés. Hein, et il y a millettrés hommes, millettrés femmes, millettrés tout sexe confondu. Mais l'iki, c'est quelque chose que l'on retrouve, c'est une sorte de stylisation de l'éros, donc on a une sorte de transformation, et sans doute la jeunesse pop-manga de Tokyo, et peut-être avec ses cheveux roses, ses cheveux jaunes, et peut-être l'avatar de cette sorte de maniérisme japonais, au fond d'un art artificiel, du culte de l'artifice que j'avais tellement aimé chez Baudelaire.
Pontormo revu par la jeunesse pop de Kyoto,
oui,
alors, les couleurs acidulées de Pontormo.
Ah, c'est sûr. C'est-à-dire que s'il y a une référence, de ce maniérisme fluide, c'est le maniérisme occidental, hein, cette capacité de neutraliser, de démembrer l'affect, et au fond on le démembre par des couleurs très vives, ce que comprendra très clairement Varol, hein, à l'autre bout en quelque sorte. Il m'a semblé qu'il y avait là la matrice de ce qui est au fond l'essentiel de ce que j'ai essayé de faire, un traité d'esthétique au fond, une esthétique de l'indifférence.
Et c'est ce qu'avait également compris Van Gogh quand il est entré dans sa période japonisante qui a été tellement importante. Vous le citez dans votre livre, Christine Bussy-Glucksmann, quand il parle de cet œil plat, qui est l'inverse de notre œil occidental dans la perception que l'on peut avoir de l'art. C'est une façon, effectivement, déjà d'annoncer ce que vous appelez l'esthétique de l'indifférence.
Oui, c'est-à-dire, Van Gogh dit très bien qu'il voulait avoir un œil japonais et que cet œil japonais et son Japon, il l'a trouvé en Provence, comme quoi on trouve toujours son autre quelque part. Et je crois que c'est très important pour Van Gogh, mais aussi pour Manet. C'est l'époque où on collectionne les estampes japonaises. Et au fond, ce qu'on a appelé d'un terme que j'ai un peu critiqué dans mon livre, le japonisme, c'est vraiment la contribution du Japon, de Kusai, à l'invention de la modernité occidentale, c'est-à-dire au passage au plat, au fond. Et l'indifférence est un concept que j'ai développé, auquel je tiens beaucoup, et qui est précisément un concept qui croise, d'une certaine manière, l'Occident et l'Orient.
Théâtre chanté, dialogué, mimé, dansé, extrait du Pont en pierre, un célèbre No composé au XVe siècle par le fils de Zéami, le fondateur du théâtre No. Grandes envolées du baroque, on est loin du Bernin, on est loin de cette forme d'expression justement qui montre dans laquelle la sensualité est quasiment à fleur de peau, à fleur de sculpture. Je pense à la Sainte Thérèse. Là, cette fois, quand on voit cette photo que vous avez faite de la dame du dit du Ganji, qui est derrière une grille, donc qui semble tout à fait insaisissable, qui pour autant pourrait être malgré tout très érotique, mais ça n'est absolument pas notre vision du monde et de cet érotisme.
Oui, mais ça c'est sûr que mon livre se veut comme un cristal fluide, aussi bien dans l'écriture que dans la pensée, et que je suis très loin d'une écriture du baroque, d'un baroque, disons, de l'excès. Mais il y a un autre baroque, il y a Borromini, il y a le baroque du vide, il y a la montée spiralique sur le vide. Et donc, ce baroque du vide, au fond, m'a toujours autant intéressé que le baroque du plein. C'est pourquoi j'avais privilégié comme vous le savez, les rhétoriques du rien, puisque je crois que nous avons ça en commun en Italie. Et à ce moment-là, ce cristal du fluide est une sorte de métaphore et de mon voyage et de mon trajet et ces trois temps de l'esthétique que j'ai tenté d'élaborer, les transparences, les indifférences et les légèretés. Je veux dire par là qu'il fallait montrer à travers différents moments culturels, que ce soit de Nara ou virtuel, qu'il y avait des matrices d'une esthétique de l'indifférence. J'en donne quelques-unes. J'ai analysé ce que j'ai appelé l'effet surface, qu'on retrouve dans toute l'architecture, cet effet de fluidité et de traversée des surfaces dans toute l'architecture d'Isosaki, mais surtout de Toyo Ito, Itsuko Asegawa par exemple. La deuxième matrice, c'est l'effet vague. Or, on la voit dans les portes de lac très, très distanciées de Nara. On la voit aussi bien dans la peinture, les peintures de vagues, et pas seulement au Kusai. On la voit également dans cette recherche d'une topologie d'espace courbe insaisissable. Car la vague, c'est à la fois le micro-détail à l'infini, pas le mouvement, l'image sonore dont on parlait, et aussi un espace que, au fond, je ne peux pas maîtriser. Et c'est ça, l'espace indifférent. C'est un espace qui échappe, qui vous échappe, et ces effets vagues, ces effets surface présupposent ce que j'ai appelé également les liens tout à fait importants au Japon, aussi bien dans la mode que dans le design, que dans l'architecture, entre ce que j'ai appelé la texture et les abstracts. On a à la fois une passion de la matière et du matériau, et tout particulièrement, je dirais, ce qui me passionne également, les matériaux du XXIe siècle, le moiré qu'aimait Duchamp, le nacré, les matériaux synthétiques qui sont en commun d'ailleurs, comme le disait Itsuko Asegawa, à son architecture et à la mode. Ils ont le même magasin. Et donc, il y a toute une procédure d'abstraction de la matière qui fait qu'on a vraiment des textures, comme dans le baroque, qui est plissé, etc. un pli, je dirais un pli abstrait. Un pli qui est une enveloppe, comme dans la mode. Et ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur.
Just me,
À l'inverse de la démarche artistique occidentale, dont tout l'effort a toujours constitué à rendre visible l'invisible, là il s'agit de rendre invisible le visible.
Oui, c'est-à-dire de mettre l'invisibilité dans la surface, mais je crois que je nuancerais beaucoup cette opposition entre esthétique occidentale et l'esthétique, disons, japonaise. Car, bon, je citais...
D'autant plus qu'il y a une grande interpénétration.
Il y a une interpénétration, comme on le voit chez les artistes, comme par exemple Mariko Mori ou d'autres. Mais surtout, il y a un courant dans l'esthétique occidentale qui procède du neutre, de l'inexpressif, de la distance... Et je citais Manet, je citais également Duchamp, l'inopticité blanche, l'irisé, l'idée de l'effet de verre, en quelque sorte. Et je cite Varolle, le pop, au fond, paradoxalement, cet espace très haut en couleur, très, très, très appuyé, était un renversement de la hiérarchie des arts et retrouvait, au fond, quelque chose qui est omniprésent au Japon, dans ce que j'ai appelé le kitsch de masse. Alors, cette esthétique japonaise de l'indifférence, si ça me paraît aussi important, c'est que je crois qu'effectivement il y a une sorte de baroque technologique du virtuel, mais à l'opposé, il y a une archéologie du virtuel qui est du côté de ce retrait de corps, de ce clonage du monde, et qui trouve toutes ses références, et c'est pourquoi du zen au virtuel, à travers l'architecture japonaise et à travers même les œuvres du virtuel au Japon.
ああいう風には生きられないんだろうな。
L'esthétique de l'indifférence, c'est aussi celle qui triomphe dans cette scène finale d'Anabi, le film de Takeshi Kitano, primé à Venise par le Lion d'Or en 1997.
ありがとう。ごめんね。
ce qui vous transforme au Japon, c'est qu'on acquiert une sorte de sagesse du temps, au fond. Et la seule sagesse du temps qu'on peut acquérir en tant qu'humain, c'est le sens de l'impermanence et de l'éphémère des choses. Mais un sens positif. Et là, je crois que l'éphémère, qui est souvent mal vécu en Occident, hein, on veut que ça dure, en quelque sorte. La légèreté et l'éphémère, comme Calvino dans Les leçons américaines, hein, ce merveilleux livre, j'en ai fait des valeurs positives. Et ça, ça vous transforme radicalement.
C'est peut-être le sens profond de ces haïkus. Peut-être pourrait-on citer pour terminer un seul pétale, choix du cerisier, silence de la montagne.
À quoi je pourrais mettre un autre fragment de cette poétique du temps? C'est un fragment de Dogen qui ressemble au livre du temps que j'ai vécu au Japon. Je le lis. Le rat étant, le tigre étant, la vie étant.
Sur ces notes de musique traditionnelle gagaku, aux origines de la musique japonaise, s'achève cette œuvre croisée, Christine Bussy-Glucksmann et le Japon. À propos des voyages de cette philosophe entre le monde du zen et les univers virtuels, et de sa mise à jour de l'esthétique du temps au Japon, publiée sous ce même titre aux éditions Galilée. Mixage Pierre Monteil. Une émission de Pascal Lismonde réalisée par Perrine Mingui.
Cette émission a été diffusée la première fois le 7 avril 2001 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.